Nous allons parler du projet de métropolisation franco-valdo-genevoise. C'est un dossier qui est porté par l'Association régionale de coopération, l'ARC, présidée par Laurent Moutineau, conseiller d'État et chef du DAEL, et Robert Borel, le maire d'Annemasse. C'est un projet qui regroupe 111 communes françaises, les cantons de Genève et de Vaud, les départements de l'Haute-Savoie, de l'Ain et la région Rhône-Alpes, soit un bassin de 730 000 habitants. Et nous sommes aujourd'hui avec Laurent Moutineau, bonjour.
Bonjour.
Et Bruno Vessière, le directeur de la Fondation Braillard Architecte, et Abel Duarte, notre collaborateur. Pour différentes raisons, la Confédération est favorable à un renforcement de la coopération et appuie ce projet d'agglomération frontalière. Selon les interlocuteurs, nous entendons parler d'aménagement concerté, de collaboration, de coopération entre les partenaires français et vaudois. Va-t-on vers une seule ville du pied du Jura aux marges du Salève ou une région métropolitaine comme Zurich, Bâle, Fribourg, Mulhouse ou une zone polycentrée de près d'un million d'habitants? Laurent Moutineau, quelle ville ou projet d'agglomération vise ces accords?
Écoutez, en premier lieu, il y a une réalité, c'est qu'il y a une ville centre, il y a une ville internationale qui est Genève et puis il y a un vaste bassin de vie parce que d'un côté... Les habitants de la France voisine viennent travailler chez nous. De l'autre côté, nous allons nous ébattre chez eux pendant nos loisirs. Nous profitons les uns les autres d'un certain nombre de synergies. Or, aujourd'hui, ce qui se produit, c'est que jusqu'à maintenant, tout le monde était gagnant de cette situation, naturellement gagnant, si j'ose dire. Et puis maintenant, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de déséquilibres qui menace d'une part le développement, d'autre part l'harmonie de la région et finalement la qualité de la vie des habitants. Donc nous sommes très clairement condamnés à nous entendre et à mettre un petit peu d'ordre dans cette magnifique région. Le but du projet d'agglomération, c'est ça, c'est d'organiser cet espace de vie d'une manière harmonieuse, de réduire un certain nombre d'inégalités et de résoudre un certain nombre de problèmes, les plus évidents étant par exemple celui des transports.
Mais alors tout le monde connaît bien sûr le plaisir de la vie à Genève. Si la ville doit devenir le centre chef d'une métropole de 700 à 800 000 habitants, elle est condamnée à la croissance.
Alors, vous savez, la croissance se décrète pas. On peut avoir des conditions cadres qui font qu'une ville est attractive, et c'est le cas de Genève, de par la présence des organisations internationales, de par sa qualité paysagère, urbaine, patrimoniale, par le niveau de la formation qui est donné dans nos écoles et à l'université, qui pousse au développement. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tout casser, il suffit de tout bloquer, et ça serait absolument dramatique. Donc nous n'avons pas une vocation en tant que telle à forcément faire croître Genève au-delà du raisonnable, mais c'est une réalité qu'un certain nombre de gens viennent, que nous les accueillons parce qu'ils font partie de la prospérité de Genève, et si nous ne le faisons pas, il faut bien voir qu'une ville qui n'évolue pas, qui ne se développe pas, c'est même pas une question de nombre, mais une ville qui n'évolue pas, qui ne se développe pas, est une ville qui est très rapidement condamnée à stagner, à disparaître.
Bruno Vessière, vous...
Oui, de petites précisions quand même, c'est-à-dire que pour ce qui est de la croissance, on évoque souvent la compétition des villes aujourd'hui dans le monde, donc qu'est-ce qu'on appelle vraiment une ville, hein? Il y a toutes les catégories possibles. Alors sans tomber dans la ville évidemment du tiers-monde avec 28 millions d'habitants, voire plus, on sait qu'il y a un seuil optimal autour d'1 million, 1,5 million d'habitants. En dessous, par exemple, alors ça dépend aussi des pays, des logiques administratives et des ventilations dans les différentes politiques publiques, mais les transports publics sont moins rentables, certains grands équipements comme les universités, les aéroports. Donc Genève est l'une des plus gâtées, puisqu'elle est quand même largement en dessous du seuil d'1,5 million d'habitants, et elle a à peu près tout ce qu'il faut comme les villes qui sont dans cette catégorie d'1,5 million d'habitants minimum. Par contre, dans cette compétition mondiale, malgré tout, il y a un effet de masse plus ou moins indispensable pour des raisons qu'a invoquées aussi Laurent Moutineau à juste titre. Il faut quand même surtout pas casser les villes, donc elles doivent quand même connaître une certaine croissance. Et donc là, pour l'instant, le débat est un peu compliqué parce que Genève, ce qu'on appelle Genève, c'est le canton dans notre petit débat, bien sûr. C'est difficile de passer au-dessus de 500 000 habitants. Donc si on parle d'un million d'habitants, ça veut dire en clair qu'il y en a déjà presque 300 000 du côté français, un petit peu oignon. Les 200 000 qui vont arriver évidemment du côté français, quasiment, à peu de choses près, ce qui n'est pas idiot. Dans un système de croissance métropolitaine normal, on n'est pas là pour polémiquer sur des justement qu'est-ce qu'on peut densifier ou pas au centre-ville, hein, même si on a envie de...
Non, mais ouais. Ce que vous dites est exact. Si on prend une ville de la taille de Genève et qu'on fait totalement abstraction de la frontière, on s'aperçoit aisément que les gens habitent à plus de 4 km du centre. Mmh. Or, c'est la distance à vol d'oiseau qu'il y a entre le centre de Genève et la frontière dans la région de Moelle-Sula ou dans la région de Meyrin. Donc la frontière, elle est une sorte de corset, ou en tout cas de réalité qui divise cette région, mais il n'y a rien d'étonnant sur une agglomération de cette taille qu'elle aille aussi loin que Genève va aujourd'hui. Alors, la capacité d'accueil du canton de Genève au sens strict, elle est encore non négligeable. Ce qu'il convient d'éviter en revanche, c'est d'en faire une réserve d'Indiens, c'est-à-dire que nous aurions une ville parfaite entourée d'une campagne admirable, et puis de l'autre côté de la frontière, tout le reste de ce qu'on ne veut pas. Et c'est ça qui est un déséquilibre, c'est ça qui n'est pas acceptable. C'est la question de la répartition des emplois et du logement, la répartition du bâti et du non-bâti. On pourrait très bien imaginer que certaines régions du canton soient densifiées et qu'en contrepartie, le Salève, qui est notre montagne à tous dans cette région, soit un parc naturel, comme il a d'ailleurs tendance à l'être. C'est pas une idée fantaisiste que j'avance là. On a participé d'ailleurs aux travaux qui ont conduit à la charte sur le Salève.
Oui, en fait, je crois que l'idée que vous voulez défendre, c'est finalement non pas une croissance caricaturalement qui optimiserait un peu le problème d'une hypertrophie du centre-ville, parce que tout à l'heure vous avez quand même dit, dans un projet d'agglomération, il y a un centre-ville qui peut et doit rester Genève. En fait, l'idéal, ça serait quand même d'arriver à ce que, même si la frontière évidemment est aussi très artificielle, pauvre Pic de Rochemont, il pouvait pas prévoir tout ça en 1815, mais en fait, on peut imaginer que s'il y a 500 000 habitants du côté français, et autant du côté genevois et un peu vaudois, à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre d'activités également au niveau donc des emplois et des équipements qui soient très importantes du côté français. Auquel cas, là, c'est un exercice de prospective délicat.
Non, mais ça me paraît indispensable que cet équilibre se réalise. La difficulté, c'est que la politique fiscale française n'est pas comparable à la politique fiscale genevoise, et que lorsqu'une entreprise qui, pour une raison ou pour une autre, peine à s'installer à Genève, nous lui suggérons vivement de s'installer en France voisine, simplement par souci de cohérence, puisque nous voulons nous développer ensemble avec nos voisins français, eh ben on nous dit non, on va aller à Zurich ou à Singapour. Là, il y a une véritable difficulté qui est du côté français, en l'occurrence.
Oui, l'idéal, ça serait que du côté français, on crée non pas les zones franches qui ont été presque anticonstitutionnelles du côté français dans les fameuses cités dont on parle tant là, mais qui est un projet fiscal plus souple pour... justement, c'est pour ça que j'ai employé le terme de zone franche exprès, puisqu'il y a une double connotation historique ici, qui n'est pas celle justement de ces cités françaises actuelles à problème, mais de la vieille zone franche depuis 1815. Donc, effectivement, sinon on aura toujours... Un rétrécissement quasiment obligatoire du marché de l'emploi et du travail du côté suisse. Il y a le cadre Rossignol en ce moment, par exemple. L'entreprise Rossignol française était une entreprise phare de la région Rhône-Alpes sur toutes les montages pour vendre la région Rhône-Alpes. On voyait toujours Voiron, donc cette ville de la banlieue de Grenoble, avec l'entreprise Rossignol qui exportait massivement au Japon. On faisait pas de ski. Et puis Rossignol est en train, parce qu'ils ont été rachetés, de se dire on irait bien... Alors, est-ce qu'ils vont aller à Archamps, dans le canton de Genève?
Moi, je peux vous dire clairement qu'ils resteront à Voiron, parce que je les ai vus. Mmh. Enfin, pas directement, mais j'ai eu des contacts avec cette entreprise. Puis c'est une... Nous, on les aurait accueillis, bien entendu, avec plaisir. mais c'est une très bonne nouvelle pour la Haute-Savoie que Rossignol garde cette implantation à Voiron. Mmh.
Mais est-ce qu'il y a une compétition entre pour faire implanter ces entreprises, puisque d'un côté dans le bassin français et ensuite aussi pour la Suisse qui cherche
Non, nous on n'est pas en compétition avec nos voisins français. On essaye beaucoup plus d'être en synergie qu'en compétition. Une fois encore, les situations sont tellement différentes que je ne crois pas qu'il puisse y avoir vraiment de compétition. Sauf des cas tout à fait marginaux, mais de manière générale on n'est pas en compétition. Je t'en dis, il n'y a pas Procter & Gamble, ils sont venus à Genève, ils n'ont pas été à Annecy. Il y a d'autres entreprises qui au contraire, profitant notamment de la bonne capacité industrielle de la vallée de l'Arve, vont s'installer dans la vallée de l'Arve et puis n'ont pas l'idée de venir ici. Nos spécificités économiques sont suffisamment différentes pour qu'il n'y ait pas de compétition. Par contre, ce qu'il est souhaitable de faire, c'est que du côté français, nous puissions aider à, notamment dans le cadre de la Genève internationale, à l'accueil sur territoire français d'organisations non gouvernementales. Puisqu'aujourd'hui, un certain nombre de personnes qui travaillent dans ces ONG habitent sur France et nous avons les organisations sur Suisse, il serait parfaitement légitime qu'un certain nombre d'ONG s'installent en France. Je précise bien d'ONG, parce que s'agissant des organisations internationales, proprement dites, là c'est exclu, la France ne le souhaite d'ailleurs pas non plus, parce que c'est la présence à Genève et sur territoire suisse qui est souhaitée, et non pas une extension sur France.
Donc pour les ONG, ce serait surtout la possibilité de bénéficier de conditions plus avantageuses.
Bon, ça serait, n'est-ce pas, ça fait partie un petit peu du réseau de vie de cette région. Il y a à Archamps un certain nombre d'activités qui ont eu de la peine à se mettre sur pied, mais qui aujourd'hui acquièrent une certaine réputation. Avec Seva, n'est-ce pas, la liaison ferroviaire Cornavin au Vivanmas, si, comme le souhaite le maire Robert Borel, une ONG s'installe à Annemasse, ils sont à un quart d'heure du centre de Genève, c'est plus intéressant que de se retrouver aux eaux vives, à la limite. Donc là, c'est là où il y a un vrai dynamisme régional possible.
On peut même citer le nom de l'ONG. Enfin,
vous pouvez le citer.
Oui, parce que Robert Borel en est très fier. Et on peut dire que c'est la vraie coopération transfrontalière, puisque ce sont quand même... certains hauts fonctionnaires genevois qui ont souhaité que cette ONG, précisément pour ne pas aller plus loin, donc comme disait Laurent Moutineau, ça peut être à Singapour ou ailleurs si elles veulent aller plus loin, autant qu'elles restent effectivement dans le giron genevois. Et là, effectivement, un CF peut s'installer à Annemasse et d'autres. Et puis Archamps, que citait aussi Laurent Moutineau, il y a un projet qui est un faux petit serpent de mer, mais qui s'appelait le CRET, le Centre de Recherche et d'Études Transfrontalières, qui existe dans beaucoup d'autres métropoles transfrontalières où on essaye de voir des politiques de santé en commun. Ici, c'est très compliqué, mais tout un tas de choses en dehors du nerf de la guerre, que sont les infrastructures, transports, etc.
Alors, il y a un géographe, professeur à l'EPFL, Martin Schuller, qui a affirmé dans les médias que l'agglomération genevoise devait concevoir son développement comme s'il n'y avait pas de frontières, en répartissant de manière équilibrée ses activités sur son territoire. Avec la frontière donc entre la France et la Suisse, est-ce qu'il est possible de véritablement d'envisager cette superficie librement?
Mais je crois que c'est une vision juste des choses. C'est bien comme cela qu'on doit le faire. La seule spécificité, une fois encore, c'est celle des organisations internationales, parce que elles trouvent l'avantage majeur à Genève d'être dans un pays neutre, de ne pas par conséquent être sur le territoire d'une des puissances qui fait partie du Conseil de sécurité. Et là, la France non plus, j'entends, ne tient pas à ce qu'elle vienne sur son territoire. Ça, c'est la seule chose, je dirais, qui ne peut pas être dispersée dans la région. Mais pour le reste, oui, il est tout à fait légitime et normal que la répartition des richesses, des avantages, des inconvénients, soit plus équitable qu'aujourd'hui.
Alors ça, c'est pour les ONG et les organisations, mais pour les habitants, il y a des problèmes plus petits qui se posent. Est-ce qu'il sera prévu, par exemple, d'avoir accès à des infrastructures comme l'hôpital cantonal?
Alors ça, bien entendu, que si l'on raisonne sans frontières, l'hôpital universitaire de Genève doit être l'hôpital des soins spécialisés, de la recherche, doit être l'hôpital majeur de la région sans considération de la frontière. Et les soins décentralisée, eh bien, à ce moment-là, on a un système d'hôpitaux régionaux, je ne sais pas comment on les appelle en France. C'est ce à quoi travaille mon collègue Pierre-François Ingère avec les autorités sanitaires françaises.
Alors, vous parliez tout à l'heure, enfin, je vous posais la question au sujet de la concurrence, bien sûr, on parlait pour les entreprises, mais en tant que grande métropole, est-ce qu'il y aura plusieurs pôles? Est-ce qu'on peut se retrouver en concurrence avec Lyon, par exemple, à partir du moment où l'agglomération transfrontalière serait pratiquement aussi peuplée que celle de Lyon?
Alors, non, d'abord, au niveau population, c'est pas le cas, mais non, avec Lyon, je crois pas qu'il y ait une véritable compétition ou concurrence. Il y en a eu une sur l'aéroport qui aujourd'hui est considérablement aplanie. Il est vrai aussi qu'à l'époque de M. Raymond Barre, il avait un projet, lui, de concurrence en matière de congrès et de rencontres internationales, mais aujourd'hui, ça n'est manifestement plus le cas. Donc je ne crois pas qu'il y ait, en tout cas pas une compétition acharnée qui puisse nuire à nos relations. Bien sûr que Lyon est enchanté de récupérer de temps en temps un congrès ou une manifestation, mais au-delà de ça, les relations avec Lyon sont bonnes. Lyon est tourné sur l'axe Vallée du Rhône, sur l'axe Paris-Marseille. Lyon ne regarde pas trop du côté des Alpes.
Et du côté de Paris, est-ce que, enfin Paris qui voit d'un très bon œil et qui favorise ces relations transfrontalières, quel est l'intérêt français à pousser cette métropole qui avantagera beaucoup Genève?
Alors, je crois qu'il y a un élément historique. Les relations entre Paris et Genève ont toujours été bonnes, malgré la réforme d'ailleurs, puisque le résident de France a toujours eu un grand rôle dans les affaires de la République genevoise. Aujourd'hui, c'est lié de toute évidence à la Genève internationale francophone. Vous savez que Paris attache une grande importance à la francophonie. Et par conséquent, défend ce dont nous nous félicitons tous les jours, le rôle de Genève dans les relations internationales.
Et au niveau des mentalités, puisque maintenant, comme le disait Bruno Essière, ce n'est plus, quand on passe le forum, ce n'est plus le Rio Grande pour aller au Mexique, ça sera véritablement
C'était une autre émission.
C'était une autre émission. Comment est-ce qu'on va pouvoir accepter, si vous voulez, que toute la superficie relève d'une même conception.
Mais je crois que c'est l'inverse qui n'est plus acceptable. J'entends, on ne peut pas imaginer que chacun, commune par commune, fasse sa petite planification de son avenir propre avec sa piscine, son usine et son supermarché. C'est juste insensé. Tout le monde en a la perception très nette. Et malgré forcément quelques égoïsmes ou réactions locales, tout le monde sait au bout de 3 minutes de discussion que le canton est déjà une échelle trop petite pour planifier l'aménagement futur et que la région est l'échelle juste. Ce qu'ont perçu aussi bien la Confédération suisse en soutenant le projet d'agglomération et en s'y impliquant fortement que le gouvernement français, à la même époque, avec un projet un tout petit peu différent, puisque c'est une question de métropolisation, mais enfin, dans les deux cas, ça signifie quoi? C'est la reconnaissance par nos deux capitales respectives du fait qu'il y a une réalité d'agglomération qui n'est pas prise en compte dans les structures politiques usuelles, canton, commune, département ou autre, et qui doit faire l'objet de soins attentifs pour éviter que les véritables problèmes de cette agglomération ne soient résolus nulle part, parce qu'aucune structure politique n'est en mesure de le faire. D'où l'impérieuse nécessité de ces projets. Alors après, sur quoi débouche-t-il? Sur une coopération, collaboration renforcée avec des planifications communes, et puis au mieux, vers une évolution ou carrément un certain nombre de compétences peuvent être dévolues à un organe transfrontalier.
Oui, là, Laurent Moutinho a raison. Il faut qu'il y ait un transfert de compétences vers un organe transfrontalier au niveau, alors peut-être très en amont, ce qu'on pourrait appeler la régulation des transports et des infrastructures, par exemple.
Effectivement, ça commencera forcément par le technique. Je rappelle que l'Europe a commencé par la communauté européenne du charbon et de l'acier, ce qui était assez technique, pour en arriver à l'Union européenne. Nous, ça commence par ce qu'on appelle donc des groupements locaux de coopération transfrontalière, qui sont les eaux usées du pays de Gex, qui sont le téléphérique du Salève et ce genre de choses. Puis un jour, il y aura un GLCT qui sera aménagement et urbanisme. Ça tombe. À mon avis, c'est la tendance générale. La question est de savoir quand.
Et l'urbanisation va donc faire l'objet d'un projet commun. Est-ce que ce sera plus difficile en Suisse avec toutes les oppositions possibles, alors que les Français bénéficient souvent de lois qui leur permettent de lancer des grands plans directeurs?
Vous savez, les Français ont des législations apparemment expéditives, mais force est de constater que la construction du réseau autoroutier suisse, malgré toutes ces procédures compliquées, a été au moins aussi vite, si ce n'est plus, que la construction du réseau autoroutier français. Non, là, je crois pas que les différences de système et de mentalité vont jouer un rôle, mais c'est pas nos procédures qui vont plus compliquer la manœuvre qu'autre chose. Par contre, la difficulté institutionnelle, c'est d'avoir les échelons justes, parce que les transports sont de compétences régionales, l'aménagement du territoire est de compétences un peu plus locales en France. Donc là, on a un certain nombre de coïncidences, ou il faut trouver le bon niveau. Et ça, on finit, à force de se parler et de se connaître, à commencer à avoir une assez bonne idée de savoir qui doit discuter de quoi avec qui, et de ne pas se tromper d'interlocuteur, sinon on perd du temps.
Oui, je dirais même que la difficulté, par exemple, pour quelqu'un comme Laurent Moutineau, c'est que parfois il doit aller quasiment voir le président de la région pour parler de transport. Exact. Parfois c'était avec un ministère français, et puis souvent au niveau des élus locaux, le débat est compliqué, puisque le préfet de Haute-Savoie et le préfet évidemment de l'Ain, Bourg-en-Bresse, sont aussi des éléments importants de la discussion, que les élus locaux eux-mêmes, ils ont déjà 3 ou 4 qu'on appelle des SCOT en France, donc à assembler au sein de cette structure de coopération. Donc en fait, oui, le débat actuel, c'est comment avancer dans ces emboîtements et ces échelles, avec peut-être aussi en plus une langue commune à fabriquer entre les techniciens, qui eux-mêmes, donc les techniciens genevois et les techniciens français, un genevois s'il parle de EMS, il sait ce que ça veut dire, puis un technicien français avec la DATAR qui a créé ses métropoles, EMS ça veut dire emploi métropolitain supérieur, c'est donc compter véritablement les cadres en surchauffe. Donc il y a tout un tas de transversales à fabriquer, mais moi j'ai l'impression que apparemment depuis 2 ans ça va très vite et que ça peut aller encore beaucoup plus vite pour l'année qui vient.
Moi, c'est-à-dire que nos deux capitales, dans les projets qu'elles soutiennent, nous ont fixé un certain nombre de délais. Mmh. Alors heureusement, évidemment, on ne part pas de rien, puisque il y a eu des projets sectoriels qui étaient en bonne voie, certains aboutis. On a l'habitude du comité régional franco-genevois. Mais c'est une légitimité, c'est un coup d'accélérateur, c'est l'appui des services centraux de nos États respectifs qui jouent un rôle majeur. Et la création de l'ARC, ça je crois que c'est un point très important. La difficulté de Genève dans certaines questions, c'est effectivement de savoir avec qui on parle. Or, l'ARC, qui est donc l'association qui regroupe les communautés de communes qui entourent le canton de Genève, c'est pour nous la bonne taille qui correspond de fait à l'agglomération, et de pouvoir parler avec cette structure qui s'exprime d'une seule voix, c'est un immense avantage, tant il est vrai que c'est vraiment notre interlocuteur naturel dans une vision géographique et pratique de la région.
Il ne faut pas oublier qu'il y a presque 200 communes entre les communes françaises, les communes suisses, y compris vaudoises. Hein, oui. C'est quand même énorme. Alors ARC, c'est un peu drôle parce que ça reprend aussi l'arc lémanique tout en n'étant pas là comme acronyme, tout en n'étant pas l'arc lémanique. Ça se dégrave du sillon alpin qui vit donc comme une espèce de coup de belge directement entre Genève et Grenoble via Chambéry et Annecy. Mais c'est vrai que c'est un beau titre parce que de toute façon, du côté français, enfin ce qu'on appelle de Divonne à Douvaine, on imagine très bien effectivement quelle tension il peut y avoir avec la polarisation de Genève au milieu. Et encore aujourd'hui, les Français eux-mêmes ont pratiquement plus besoin de Genève, j'ai l'impression, pour s'entendre des fois, justement, entre Divonne et Douvaine, que sinon ça, c'était très compliqué. Du côté français, la coopération elle-même était très compliquée entre ces deux départements différents et des types d'habités même qui sont très différents entre le pays de Gex, la Haute-Savoie et des types d'industrialisation. Peut-être un des dangers, ce que disait aussi Laurent Moutineau au début par rapport Il y a un certain profil d'emploi du côté français qui est évidemment différent. On ne fait pas de la finance internationale dans la vallée de l'Arve. Ça serait que la France aujourd'hui, avec la mobilité et la facilité douanière entre la Sicile, la Finlande, le Portugal et la Pologne, avec cette autoroute qui passe aux portes de Genève, mais française celle-là, utilise peut-être trop la logistique et un certain nombre de facilités purement en transport logistique, mais déqualifiées, face à une Genève qui resterait trop spécifiquement des emplois de haut vol, d'une finance mondiale déréalisée presque. Mais bon, ça, ce sont des choses, on peut trouver aussi tout un tas de passerelles. Mais ça, ce sont des projets à faire.
Laurent Moutineau, nous avons parlé de plusieurs... Enfin, de la politique en général. Est-ce que l'on pourrait aborder, même sans dévoiler ce qui devrait être discuté lundi au comité de pilotage, des grandes lignes de projets concrets dans le cadre d'une vraie politique transfrontalière?
Vous savez, les principaux projets, ils sont d'ores et déjà connus, avancés, et ils aboutiront. Le plus célèbre d'entre eux, c'est quand même la liaison ferroviaire Cornavan-Vivanmaas, parce que c'est l'épine dorsale des transports dans cette région, et que toute une série d'autres projets ne sont envisageables qu'à partir du moment où cette question des transports entre la Haute-Savoie du Nord et Genève sont réglées. Donc là, le projet d'une agglomération ou de métropolisation ne change rien. Il donne un cadre, il donne une cohérence. On sait qu'évidemment, à partir du moment où il y a un transport lourd, il y a un certain nombre de zones près des gares qui se prêtent à des développements pour l'économie ou pour le logement, dont il faut tenir compte, etc. Il ne va pas y avoir une espèce de projet miracle ou artificiel, surtout pas. C'est bel et bien d'organiser ce que nous faisons aujourd'hui, déjà en nous parlant un petit peu, mais de nous organiser en nous parlant beaucoup, et de tenir compte réciproquement des orientations que nous prenons, de manière à ce que les choses se développent harmonieusement. C'est ça le projet d'agglomération. La coopération qui existe entre l'Université de Genève et l'Université de Grenoble, par exemple, elle existe. À partir du moment où la région franco-valdo-genevoise se sent une région à la capacité de gérer en commun son propre avenir, c'est une collaboration qui va automatiquement et naturellement et heureusement s'intensifier. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne faut pas imaginer une espèce de projet technocratique ou une espèce de projet politique où tout d'un coup on va inventer des grandes structures nouvelles ou des projets plus ou moins joyeux ou délirants. Non, c'est de se mettre ensemble dans le concret de ce que l'on fait et de ce que l'on doit améliorer pour que la vie de nos concitoyens dans cette région soit meilleure.
C'est déjà ce que les concitoyens ont réussi, par exemple, dans le domaine culturel.
Dans le domaine culturel, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été faites. Il n'y a qu'à penser au fait que le festival du Bois de la Bâtie et le festival de la Bâtie, moi je dis encore Bois de la Bâtie parce que je l'ai connu quand il était là-bas, mais le festival de la Bâtie, ça ne fait que quelques années qu'il intègre des programmes à Ferney-Voltaire et à Annemasse. Puis je suis toujours quand même un peu vexé de voir dans le programme, c'est toujours en italique et en fin de programme. Un jour ou l'autre, ça fera partie du programme comme le reste.
Il y a déjà un bus qui permet de...
Ah, maintenant, il y a un bus.
Une navette quotidienne, même aujourd'hui, en dehors du festival de la Bâtie, pour les activités, justement, transfrontalières.
Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes regardent facilement ce qui se passe du côté de Maison Rouge, ce qui se passe du côté du Centre Martin Luther King, qui ont des programmations très bonnes. Et puis, bien entendu, on sait que nos voisins français apprécient aussi un certain nombre de spectacles, de concerts qui sont donnés à Genève.
Oui, mais là, par exemple, c'est juste une idée comme ça, vous voyez, à brûle pour point. Je me suis toujours dit pourquoi les Français vont mettre beaucoup d'argent aussi sur certaines scènes théâtrales. Je ne vais pas me faire des amis du côté français, alors que Genève en a déjà presque trop sur ces scènes théâtrales. Et les Français, inversement, auraient pu juger une carte, notamment au niveau des films d'art et d'essai du cinéma, puisqu'ils ont certaines facilités d'importation avant que les films de Genève transitent par Zurich ou je ne sais où. Et là, on aurait pu trouver des synergies véritables. C'est dommage que les Français font des petits Genève à Annemasse et à Ferney-Voltaire, des fois.
Vous savez, il y a eu un projet de... Il y a eu une motion même déposée au Grand Conseil par quelques députés qui demandaient à ce qu'on examine l'opportunité que le musée d'ethnographie soit installé
à côté de la gare d'Annemasse.
Vraisemblablement, c'est pas ce qui se fera, mais ça paraît tout à fait légitime que ce genre d'infrastructure, qui évidemment ne concerne pas que quelques habitants du lieu, mais toute la région, voire même l'activité touristique de la région, que ce genre d'éléments puisse trouver place en France voisine.
Oui, ça c'est vrai aussi qu'un plan d'action touristique commun est aujourd'hui... on ne peut pas penser tourisme uniquement à partir du centre-ville de Genève, ne serait-ce que parce qu'il y a des complémentarités hôtelières, des complémentarités d'activités, effectivement, de mobilité. Donc là, il y a déjà, de fait, des choses qui vont aller de plus en plus vite.
On a été, par exemple, en matière de coopération depuis plusieurs années. Au départ, c'était que Genève qui allait au MIPIM, là, au marché international des professionnels de l'immobilier, présenter la région, est-ce qu'elle est susceptible d'offrir. Et puis, on y a été une première fois avec nos amis français. Et puis maintenant, c'est devenu une tradition. On y va ensemble et on se présente d'un nom barbare parce que c'est Lake Geneva Region, ce qui me paraît absolument insensé pour une région francophone, mais enfin, c'est comme ça. Et on y va tous ensemble avec une maquette de la région où la frontière est à peine visible et où on voit les projets, les pôles et tous les projets privés et publics, puisqu'on y va aussi bien les collectivités publiques que des entreprises privées. On présente le tout ensemble.
Alors on vient de voir que pour l'économie, par exemple, la culture, la coopération marche parfaitement. Pour
les parfaitement, non, rien n'est parfait. Justement, on peut toujours améliorer, c'est bien ce qu'on doit faire. Si c'était parfait, on pourrait tous rentrer chez soi.
Oui, pour les transports, c'est aussi en cours. Et en matière d'urbanisme, d'environnement, comment cela va-t-il se dérouler? Je pense que le problème du logement va être examiné des deux côtés d'une manière commune. Est-ce qu'il sera possible avec, quand on voit les communes genevoises qui sont très à cheval sur leurs prérogatives, comment est-ce que vous pourrez réussir une bonne collaboration avec les communes françaises?
Les communes françaises, elles commencent à prendre les habitudes des communes genevoises. Elles commencent c'est une bonne chose d'ailleurs, à ne plus accepter le mitage de leur territoire au fur et à mesure de projets anarchiquement proposés, mais à exiger une véritable planification et un usage un peu rationnel et parcimonieux du sol. Donc il existe d'ores et déjà un groupe transfrontalier sur l'habitat qui a été créé au début de la résurgence de la pénurie de logements il y a quelques années, qui a fait un travail d'inventaire, notamment les fameuses questions terminologiques, puisqu'un HLM de ce côté de la frontière signifie rigoureusement autre chose qu'un HLM de l'autre côté. Il fallait se mettre d'accord sur ce sur quoi on parlait. Et le volet logement du projet d'agglomération, c'est pour l'essentiel ce groupe qui existe déjà, qui intègre les études et la coordination générale du projet, donc on ne part pas du tout de zéro. Il y a des choses toutes simples. Si vous demandez à un Genevois qui est-ce qui part en France, la réponse traditionnelle, c'est les bons contribuables qui vont s'acheter des villas en France. Si vous posez la même question à un élu français, il dira c'est les vendeuses, c'est les manœuvres qui ne peuvent plus payer d'appartements à Genève et que vous nous exportez parce qu'on reste quand même moins cher que vous. La réalité, c'est qu'il y a les deux cas. Il y a toutes sortes de gens qui traversent la frontière et là, on doit déjà tout simplement expliquer à tout le monde que c'est pas que les gros contribuables qui traversent la frontière, ça n'est pas non plus les pauvres gens que l'on exporte sur France parce qu'on les veut pas à Genève, comme je l'entends dire d'un côté ou de l'autre de la frontière. Mais si on entend cela, ça signifie en tout cas une chose, c'est qu'il y a la perception très nette d'un déséquilibre et que ce déséquilibre, il est bien réel et que notre tâche, ça consiste à le réduire.
Alors pour le réduire. Oui, là, c'est vrai que la réalité aujourd'hui est infiniment plus complexe et transversale, c'est ce qui la rend si sympathique. Mais pour donner un exemple très concret, du côté français, il y a des dispositifs fiscaux pour acheter des logements et les louer, donc ensuite avoir une exonération fiscale importante. Mais comme le travailleur français frontalier ne paye pas des impôts en France, puisqu'ils sont prélevés à la source à Genève, a priori, il n'est pas intéressant. Or, tous les promoteurs français, essentiellement parisiens, se précipitent sur la zone frontalière de Genève parce que disent-ils, non, en fait, ils ont fait des enquêtes très précises et ils ont vu qu'il y a énormément de couples qu'on peut appeler la mixte, c'est-à-dire que l'un des deux travaille dans le canton de Genève avec effectivement un salaire suisse quand même et des prêts surtout à des taux hypothécaires très bas entre la Suisse et la France. Il y a une coopération de fait qui marche très bien. Les banques françaises prêtent à des taux suisses aux travailleurs transfrontaliers. Et l'autre élément du couple, lui, donc, très souvent, profite quand même de la surchauffe locale économique pour avoir un salaire important parfois. Et donc, lui est intéressé par cette dérogation fiscale. Donc, c'est pratiquement en France le meilleur gisement pour ce type de logement défiscalisé. C'est-à-dire qu'il y a quand même un des deux qui a un gros revenu fiscal en France et l'autre, même s'il n'a pas de revenu fiscal défiscalisable en France, à un système de transfert bancaire intéressant. Donc, bon, ce sont des coopérations tout à fait, là, en dehors de la politique publique, mais qui marchent déjà très très vite et très fort, même si elles ne sont pas très glorieuses.
C'est juste, ce qui manque, en revanche, j'ai jamais très bien compris pourquoi, c'est que si vous allez dans une régie genevoise, même les meilleures d'entre elles, et puis que vous disiez, j'aimerais habiter quelque part entre Divonne et Douven, peu importe, sur France ou sur Suisse, il n'y a pas la liste. Même chose en France. Mmh. Et ceux qui ont essayé courageusement d'étendre leurs activités des deux côtés de la frontière n'ont pas tellement persévéré. Mais là, c'est une coopération qui devrait pouvoir s'installer par le biais, cas échéant, d'un partenariat privé-public. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne souhaitent pas particulièrement ou forcément habiter d'un côté ou l'autre de la frontière, mais dont il n'y a pas de raison d'exiger d'eux qu'ils aillent s'inscrire à mille et un endroits si le lieu est indifférent. Là, on doit pouvoir centraliser un tout petit peu plus les activités, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient privées d'ailleurs.
Alors justement, la région française gagne plus d'habitants. Elle a aussi un taux de chômage qui est moins élevé que dans la plupart des autres provinces françaises. Cependant, l'arrivée de ces, qu'on dirait, des nouveaux habitants qui s'installent sur la région frontalière font nettement augmenter les prix. Est-ce que c'est une source de déséquilibre? Est-ce que ça sera possible de la faire baisser?
C'est une source très sérieuse de déséquilibre qui implique... du côté français, effectivement, une forme à trouver ou à encourager de maîtrise du prix du foncier. Évidemment, comme toujours, quand il y a un système de cherté, c'est parce que c'est rare. Et quand c'est rare, ben, il faut offrir plus pour que ça devienne moins cher. Ça, c'est pas compliqué. On fait tous la même analyse des deux côtés de la frontière. Cas échéant, en ayant des opérations, le Conseil d'État Genevois l'a déjà dit, des opérations sur France auxquelles pourraient participer des organismes suisses. Mais ça ne doit pas être simplement une exportation de nos problèmes, ça doit bien être dans le cadre d'une planification, parce que l'inverse est aussi vrai. J'entends, il y a un certain nombre d'entités françaises qui investissent à Genève, et puis... on sait très bien qu'un certain nombre d'entreprises de la construction genevoise sont en réalité en main française, et vice-versa d'ailleurs.
Oui, les dégâts, ça sera quand évidemment les entreprises de construction françaises pourront réellement construire du côté suisse, puisque déjà à Genève, les entreprises suisses allemandes sont presque 20 à 25% moins chères sur certaines adjudications de travaux publics, pas systématiquement. Non. Enfin, on peut imaginer par contre qu'il y ait en première phase un certain bienfait à ce qu'il y ait une homogénéisation des prix de part et d'autre de la frontière. Donc c'est pas bon pour les Français qui ne sont que Français sans salaire suisse, bien sûr, mais pour le différentiel frontalier, c'est pas idiot non plus qu'il y ait cette forme de régulation quand même.
Est-ce que sur le plan politique, le fait que aussi bien les Français que les Suisses soient tous du même parti favorise une meilleure compréhension?
Écoutez, je ne savais pas que j'appartenais au même parti que monsieur le député maire Étienne Blanc. j'entretiens pourtant avec lui d'excellentes relations dans toutes ces affaires. Non, écoutez, je ne crois pas, parce que vous savez, alors, il y a effectivement, c'est vrai que Jean-Michel Tenard, le maire de Saint-Julien, est socialiste, mais la vie politique française est un petit peu différente. Nous, on a une droite à Genève qui est pour le moins d'État, qui finalement, même carrément dans certains cas, pour le démantèlement de l'État. La droite républicaine française est extrêmement étatiste. Les méthodes utilisées par la volonté du gouvernement français, c'est de renforcer l'autorité de l'État, c'est d'intervenir pour régler les problèmes. C'est exactement l'inverse de ce que fait la droite genevoise ou suisse, qui est pour affaiblir l'État et surtout intervenir le moins possible, laisser chacun se débrouiller. Donc moi, j'entretiens plutôt de bons contacts, non seulement avec les élus de gauche français, mais même avec les élus de droite.
Alors, on peut croire que ces projets, même si le vent politique tourne d'un côté ou de l'autre, vont continuer.
Oui, parce que, une fois encore, c'est pas un projet que quelques politiciens en mal de publicité ou quelques technocrates plus ou moins passionnés ont pondu. On est, grosso modo, 8 à 900 000 personnes sur ce territoire-là, avec des atouts formidables, des tas de choses qui vont bien, mais un certain nombre qui vont pas du tout. Et sauf à raison d'être complètement crétin, il faut, on doit, et on est tous d'accord, toutes opinions politiques confondues, pour régler ces problèmes. Donc c'est pour ça que c'est un projet qui marche, qui marchera plus ou moins vite, parce qu'on n'est évidemment pas d'accord sur tout, sur toutes les méthodes, on n'a pas forcément tous les moyens nécessaires, mais néanmoins, c'est un projet extrêmement réaliste, extrêmement concret, il n'y a rien de théorique là-dedans.
Nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Alors avant de conclure, je voudrais vous demander, cette coopération va permettre d'adopter une vision commune. Est-ce que la création d'une agence d'urbanisme transfrontalière va-t-elle être dotée d'un véritable pouvoir?
Alors écoutez, ça pourrait effectivement déboucher sur une telle création. Les pistes que nous examinons n'excluent pas du tout cette hypothèse. Je rappelle qu'il y a 8 ans, j'avais proposé une agence cantonale de l'aménagement pour regrouper les forces des communes et du canton. Je me suis fait évidemment balayer ce projet, mais peut-être qu'aujourd'hui d'ailleurs, si je le reprenais, il serait déjà mieux perçu. Et puis ça n'empêche pas d'imaginer qu'à l'échelle régionale, il soit nécessaire.
Oui, moi je dirais même 2 choses. C'est que très souvent, en micropolitique conflictuelle, entre 2 petites communes ou une grosse commune et une petite commune à côté, jouer à bloquer la partie adverse, c'est une des parties de plaisir favorites. Donc là, l'intérêt d'une grande vision transfrontalière, c'est qu'évidemment, on va dépasser un petit peu ces petits conflits locaux, notamment, par exemple, certains conflits entre la ville de Genève, le canton ou d'autres entités, en prenant la vitesse un peu supérieure. Et puis, par-dessus tout ça, Laurent Moutin nous l'a quand même dit aussi, en employant peut-être le mot étape trop fort, mais disons ce qu'on appelle des politiques publiques, c'est ce que fait une agglomération transfrontalière. Ce sont des choix de politique publique avec le privé, et avec effectivement un certain nombre d'instances de régulation.
Un dernier mot, Laurent Moutineau, sur ce projet.
Mais c'est un beau projet dans lequel nous investissons toute l'énergie qu'il faut. Je vous remercie d'avoir choisi ce thème parce que effectivement c'est peut-être quelque chose de mal compris ou de mal perçu dans la population, mais je peux assurer que le travail est un travail concret dans toutes ces relations transfrontalières.
J'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler dans un prochain événement. Laurent Moutineau, merci.
Merci.